Ah, ça y est, c'est bon. L'expérience montre que même si on pose une question, ça permet de faire avancer. Donc c'est pas, ça n'est pas une diversion, une distraction. Pas de problème. Bon, je vous propose donc de. Alors, ce qui me revient, moi, parmi les trois intervenants auxquels vous allez avoir affaire, c'est de vous présenter. Un petit peu par les sommets, parce que c'est vraiment une initiation, hein. La théologie morale fondamentale. Donc on va en tout cas voir quelques aspects de théologie morale fondamentale. Et il y aura donc trois points dans mon exposé qui correspondront aux trois séances que nous avons. La quatrième, on m'a demandé, là aussi, donc je fais ce qu'on me demande, on m'a demandé de traiter une question particulière et on m'a proposé de traiter la question de la fin de vie, parce qu'il y a une, malheureusement, enfin, ou heureusement, ça dépend des points de vue, une actualité, enfin, une actualité qui a tendance à s'effacer, mais qui revient de temps en temps sur ce projet de loi concernant la fin de vie. Voilà. Mais les trois premières séances sont des séances d'introduction à la théologie morale fondamentale. Voilà, on va faire une pause tout à l'heure vers 21h, et puis on a en gros jusqu'à 22h ensemble. Bon. Alors, ce soir, je vais vous dire quelques mots sur ce que j'ai appelé les déplacements de la morale catholique contemporaine autour du Concile Vatican II. Les déplacements de la théologie morale catholique contemporaine autour du Concile Vatican II. Si on avance bien, comme avec le groupe de tout à l'heure, on pourra presque aborder le point 2, qui sera un cours sur Bible et morale. Et puis, si on avance toujours si bien, eh ben, on aura la possibilité de faire le troisième point que j'ai appelé Petite histoire de la théologie morale catholique et de ses grandes notions. Voilà, trois séances, trois points, vous voyez, c'est d'une limpidité cristalline. Et donc, figurez-vous, je vais commencer par le premier point. Comme ça, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est une pédagogie qui défie voilà, la complexité. Bon, donc, premier point, les déplacements de la théologie morale contemporaine autour de Vatican II. Alors, pourquoi je tiens à faire ça et pourquoi j'ai intitulé ça autour de Vatican II? Parce que, il est indéniable que le Concile Vatican II a représenté le grand bouleversement de la théologie catholique contemporaine. Hein? Le grand. Alors, on pourrait dire c'est une sorte de révolution, sauf que le mot de révolution. N'est pas très adapté en théologie catholique. Hein. Alors vous pouvez dire bouleversement, mutation, déplacement, tournant, renouveau, réforme. Vous savez que le pape Jean XXIII, qui a convoqué le concile en 1962, voulait ce qu'il appelait un aggiornamento en italien, c'est-à-dire une mise à jour de l'Église, hein, une actualisation, on dirait aujourd'hui, une actualisation de l'Église face au monde contemporain. Donc ça, c'était le concile a commencé avec le pape Jean XXIII, qui est mort pendant le concile, et comme vous le savez, il s'est conclu sous la houlette du pape Paul VI en 1965. Ce concile, alors, ce concile. Il y a, si vous voulez, pour l'évaluer, pour le décrire, pour le présenter, Il y a deux erreurs à ne pas faire, hein. La première erreur, c'est de le survaloriser, et la seconde erreur, c'est de le minimiser. Si on le survalorise, ça donne quoi? Ça donne, on a l'impression que avant Vatican II, il n'y avait pas de théologie, hein, et que c'est même plus la peine d'aller voir ce qui se passait avant Vatican II, puisque avant Vatican II apporte un tel renouveau que on coupe le concile de l'histoire des conciles. C'est quelque chose que les théologiens ont eu tendance à faire, hein. C'est-à-dire, on regarde le concile, le dernier concile, et finalement, ce qu'il y a avant, c'est, on va dire, on est passéiste si on en parle. Ce qui me paraît totalement inexact de faire ainsi, mais dans la joie, on pourrait dire, du souffle apporté par Vatican II, on a eu tendance, c'est vrai, à minimiser toute la tradition qui le précédait. Et la seconde erreur, c'est, eh bien, c'est l'erreur inverse qui consiste à dire, bah, c'est un concile comme un autre. Il se range dans la succession des conciles œcuméniques, mais ni plus ni moins que les autres. Ce qui me paraît être l'erreur opposée, hein, parce que il est incontestable que Vatican II a fournit des apports inédits, des développements nouveaux qu'on ne trouvait pas explicités comme ça dans les conciles précédents. Précisément, un de ces apports concerne la morale. Voilà où je voulais en venir. Mais pas seulement la morale. Vous avez sûrement dans votre formation aussi entendu maintes fois parler du Concile Vatican II. Bon, le Concile Vatican II, c'est beaucoup plus large que le renouveau de la morale, hein. La morale, c'est un des aspects parmi les aspects de nouveauté apportés par l'aggiornamento de Vatican II. En quoi a consisté cet aggiornamento? Eh bien, avant Vatican II, on a eu coutume de dire, et en particulier un dominicain qui était expert au Concile Vatican II, qui s'appelait le père Congar, hein, Yves-Marie Congar, disait ceci. Avant Vatican II, le discours sur l'Église se résumait à un discours sur la hiérarchie. Ou on pourrait dire encore autrement, le discours sur l'Église se résumait à un discours sur les clercs, c'est-à-dire sur les ministres ordonnés, avec une Église qui était envisagée sous la forme, en gros, d'une pyramide. Vous imaginez bien, en haut de la pyramide, le pape, qui était conçu ou présenté comme l'évêque universel, hein, celui qui a, dans le fond, tous les pouvoirs sur l'Église, celui qu'on appelait le vicaire du Christ, si je ne m'abuse pas, d'ailleurs je crois que le pape François a renoncé à l'appellation vicaire du Christ. Mais enfin, jusqu'au pape François, on parlait du vicaire du Christ. Le pape était le vicaire du Christ. Vous voyez? Ça situe tout de suite, hein. Et cette église pyramidale, bah, descendait, hein, c'était extrêmement vertical, du pape au sommet de la hiérarchie, puis les cardinaux, les archevêques, les évêques, les prêtres, alors parmi les prêtres, vous avez toutes les espèces et les sous-espèces, hein, les chanoines, les recteurs, tout ce que vous voulez, les curés doyens, les curés, les vicaires, ce qu'on veut, les chapelains, les aumôniers, etc., les diacres, et puis bah, vous, tout en bas. Vous voyez, c'est ça quand même le truc. C'est-à-dire que ce qu'on fait là ce soir au CIF, ce que votre formation au CIF, C'était tout simplement impossible avant Vatican II. Donc, il faut bien mesurer, c'est là où je parle quand même d'une révolution, même si le mot n'est pas adéquat. Hein. Mais avant Vatican II, la théologie, elle a été faite par des prêtres pour des prêtres, hein, ou des futurs prêtres. Pas pour des laïcs, pas d'abord pour des laïcs, et mesdames, pas pour des femmes. Voilà. Donc, si nous sommes ce soir hommes et femmes dans l'Église, c'est parce que Vatican II a fait quelque chose. C'est-à-dire que maintenant, les laïcs se forment à la théologie, ont une responsabilité dans l'Église, dans leur paroisse, etc., divers ministères, et c'est pourquoi ils font de la théologie. C'est extrêmement important de le penser comme ça, parce que ça donnait quoi du côté de la théologie morale? Bah, du côté de la théologie morale, il s'agissait essentiellement de former des confesseurs. C'est-à-dire que la morale catholique avant Vatican II était une morale de prêtre enseignée à des futurs prêtres destinés à confesser. C'était une morale de confesseur centrée sur la faute à absoudre. Et la faute qu'il fallait absolument absoudre, évidemment, c'était le péché sexuel. Hein? Ça, c'est très démontré par les historiens. C'est une banalité totale pour les historiens. Si vous voulez, d'ailleurs, en la googlisant, en regardant son CV, sa bibliographie sur Internet, vous verrez les écrits d'une historienne contemporainiste qui s'appelle Madame Sève Grand, hein, Martine Sève Grand. S-E accent V-E-G-R-A-N-D, Martine Sève Grand. Elle fait partie des historiens, historiennes qui ont mis en évidence à quel point la théologie morale, avant Vatican II, était une morale de clercs, pour des clercs, destinés à confesser leurs ouailles. Point barre. Et c'était très limité, très déterminé, très ciblé. Ça n'est plus le cas, évidemment, depuis Vatican II, et je vous le dirai dans quelques minutes, un petit peu plus tard dans mon exposé, après Vatican II surtout, la théologie morale va énormément évoluer. Et si toutes ces évolutions sont possibles, c'est parce que le Concile Vatican II a défini l'Église du Christ comme le nouveau peuple de Dieu, que le nouveau, qu'est-ce qui caractérise le peuple de Dieu? C'est le sacerdoce commun, appelé aussi dans Vatican II le sacerdoce baptismal, c'est-à-dire l'entrée dans la communauté catholique, c'est d'abord le baptême. Nous sommes toutes et tous débaptisés, c'est le sacerdoce commun. Le baptême définit le sacerdoce commun. Quand on baptise quelqu'un, il est prêtre, prophète et roi. Ça, c'est la structure, si vous voulez, de base. À partir de cette structure, à partir de ce sacrement, et des sacrements de l'initiation en général, eh bien, il se trouve que dans le cadre de ce sacerdoce commun, certains, mais c'est uniquement dans ce cadre-là, certains vont avoir d'autres missions, ministères, et effectivement, certains vont devenir diacres, certains vont devenir prêtres, certains vont devenir évêques, etc., etc. Certaines vont devenir religieuses, moniales, religieuses apostoliques, etc., etc. Donc, les missions sont diverses, comme dit l'épître de Paul, hein, les charismes sont divers, les ministères sont divers, mais c'est toujours la même église, le même service. Voyez, donc on passe d'une vision d'une église pyramidale qui en fait était coulée sur le modèle de l'impérial, hein, sur le modèle constantinien, à une église qui, comme le dit le pape actuel François, est une sorte de pyramide inversée. On inverse la pyramide, n'est-ce pas? Et le sommet de la tête, Le sommet de la pyramide, c'est-à-dire le pape, la pyramide inversée, ça veut dire, alors le pape, il exagère un peu hein, en parlant de pyramide inversée, parce que c'est pas exactement comme ça que ça se passe non plus, mais ça veut dire que nous sommes d'abord frères et sœurs dans le Christ. Et ce qui nous fait frères et sœurs dans le Christ, c'est le baptême. D'une façon seconde, certains reçoivent des ministères, y compris des ministères de gouvernement dans l'Église. Mais c'est de gouvernement, d'enseignement, de tout ce qu'on veut. Il y a les catéchèses, il y a les catéchètes, pardon. Il y a les professeurs de théologie, par exemple, etc. Voilà, il y a tous ces ministères-là. Mais tout ça se fait au nom du sacerdoce commun, autrement dit du sacerdoce baptismal. Vous voyez que dans ce nouveau modèle d'Église peuple de Dieu, la morale ne va pas rester la morale telle qu'elle était enseignée avant le Concile. C'est-à-dire, ça ne va plus être seulement une morale enseignée par des clercs à d'autres clercs ou futurs clercs. Si vous regardez le profil aujourd'hui des séminaires hein, ou des instituts catholiques ou du CIF, hein, toutes les institutions dans lesquelles la théologie est enseignée, et en particulier la théologie morale, eh bien, vous avez des professeurs femmes qui enseignent à de futurs clercs, par exemple, y compris les sacrements, y compris la morale. Ce modèle-là était impossible avant Vatican II. Donc vous voyez que c'est quand même quelque chose de puissamment novateur, quoi. Hein, je peine, je répugne à appeler ça une révolution, mais la mutation est très profonde. Pour compléter le panorama, la description que je vous fais, comme vous le savez, le Concile Vatican II n'a pas à rénover énormément de, enfin pratiquement toutes les branches de la théologie. Là, alors je donne quelques exemples pour peut-être vous remettre ça en mémoire. La Bible, par exemple, hein, les études bibliques. C'est à partir du Concile Vatican II. Alors ça a commencé avant Vatican II. Hein, faut toujours se méfier. C'est pour ça l'intitulé de mon propos ce soir, c'est Les déplacements de la morale catholique contemporaine autour de Vatican II. C'est très modeste et à la fois très précis de dire autour. Parce que si je prends l'exemple de la Bible, la critique historique de la Bible a commencé avant Vatican II. Pour ceux qui connaissent Jérusalem, hein, l'école biblique et archéologique de Jérusalem, bon, c'est l'école qui a introduit ce qu'on appelle la critique historique, la méthode historique, la méthode historico-critique à partir des années 45-50, voyez, donc bien avant Vatican II. Mais Vatican II a validé et amplifié le mouvement. Et il s'est agi de quoi à l'époque? Il s'est agi de considérer le texte biblique non pas seulement comme un texte sacré, ce qu'il est, mais aussi comme un texte humain. En d'autres termes, un texte humano-divin. Si ce texte est un texte humano-divin, ça veut dire qu'on peut le soumettre à la critique historique comme n'importe quel texte. La critique historique, la critique littéraire, la critique scientifique, etc., etc., etc. Et ça va devenir très intéressant quand on va chercher les sources bibliques de la morale. Parce qu'on ne va pas lire de la même manière la Bible avant Vatican II qu'après Vatican II. C'est-à-dire après Vatican II, la Bible étant considérée comme un texte autant humain, indissociablement humain que divin, on va pouvoir travailler les sources morales de la Bible, les sources bibliques, pardon, de la morale, en lisant un texte sacré qui est aussi un texte qu'on peut critiquer scientifiquement, historiquement, etc., etc. Et je donnerai pas mal d'exemples. Donc la Bible, ça a été vraiment, vous voyez, c'est un mouvement qui est né vraiment celui le grand créateur, on vous l'a peut-être présenté déjà, hein, c'est le père Lagrange, hein, le dominicain Lagrange, en 1943 en particulier, enfin non, 43 c'est l'encyclique, peu importe, dans les années 40-50, hein, qui à l'école biblique de Jérusalem a commencé à l'introduction de la méthode qu'on appelle toujours et qui existe toujours, la méthode historico-critique. Voilà. Deuxième lieu de la théologie qui a été profondément rénovée, la liturgie. Bah, là, c'est un exemple, c'est peut-être l'exemple le plus spectaculaire, hein, ou en tout cas, c'est l'exemple que nous connaissons tous, parce que la liturgie étant une pratique, pour celles et ceux qui ont connu, alors maintenant, voilà, mais qui ont connu la liturgie avant le dernier concile et la liturgie après le concile, la différence est claire. Bon, c'est massif, hein. Si vous vous souvenez, ou si pour ma part, je me souviens de ce que mes parents m'ont raconté, a fortiori mes grands-parents, il n'y avait pas de langue vernaculaire dans la liturgie, c'était, comme l'a dit l'expression maladroitement, la liturgie dos au peuple, c'était donc le rite ancien, et le pape Paul VI a jugé bon d'introduire un nouveau rite dans la pratique de la liturgie latine, et notamment avec la possibilité, dans laquelle tout le monde s'est engouffré, de célébrer la messe dans les langues populaires. Bon, ça, c'était là aussi une petite révolution, si vous voulez, qui n'a pas plu à tout le monde. Et ça n'a d'ailleurs pas plu à tout le monde, puisque c'est un schisme est apparu, qui est le schisme de Monseigneur Lefebvre. Alors, c'est un cocorico, si on peut dire, si on appelle ça un cocorico français, mais Monseigneur Marcel Lefebvre était évêque français, c'était même l'archevêque de Dakar, et c'est lui qui, après avoir voté le texte sur la liturgie à Vatican II, a rejeté ce texte et a créé un schisme en ordonnant lui-même des évêques. Peut-être vous vous souvenez de ça, moi je me souviens très bien des images de la télé où nous voyions l'ordination des premiers évêques par Monseigneur Lefebvre. Comme vous le savez, ordonner des évêques sans mandat du pape entraîne l'excommunication immédiate et donc la naissance d'un schisme, d'ailleurs qui n'a jamais été résolu. Alors c'est un petit schisme, hein, parce que le gros des troupes c'est pas colossal, enfin il y a quand même eu un schisme autour de la liturgie, pas seulement autour de la liturgie. Je ne suis pas liturge, je ne suis pas là d'abord pour vous parler de liturgie, mais c'est pour contextualiser, hein, à partir de quelques données que vous avez peut-être en mémoire. Troisième domaine que Vatican II a rénové beaucoup, et non seulement rénové, mais on pourrait dire créé, à savoir le dialogue œcuménique et le dialogue interreligieux. Alors, comme vous le savez, c'est surtout à ne pas confondre, puisque le dialogue œcuménique concerne le dialogue avec les autres confessions chrétiennes, tandis que le dialogue interreligieux concerne le dialogue avec les autres religions du monde, principalement celles qu'on appelle à tort d'ailleurs les religions du livre, et puis alors c'est pas vraiment des religions, c'est très discuté, mais enfin, la plupart du temps, on dit plutôt des traditions spirituelles, c'est-à-dire le bouddhisme, le taoïsme, etc., et les spiritualités d'Extrême-Orient. Alors ça, c'est une création, on pourrait dire, du Concile Vatican II, qui n'a pas plu non plus du tout, du tout, du tout à Monseigneur Lefebvre, hein, puisqu'on oublie souvent que Monseigneur Lefebvre, il ne s'est pas fâché simplement sur la liturgie, mais il s'est fâché tout autant sur le dialogue œcuménique et sur le dialogue interreligieux. Et alors la morale dans tout ça, allez-vous me dire? Eh ben, c'est pas terrible. C'est pas terrible. C'est-à-dire les grandes novations ou les grands renouvellements, le souffle de Vatican II, la Bible, c'est incontestable. La liturgie, c'est incontestable, hein. Je donne un autre exemple parce que j'y pense à l'instant. On va vivre bientôt la vigile pascale. Vos parents, vos grands-parents vous ont peut-être parlé de la vigile pascale d'avant Vatican II, il n'y en avait pas. Il y avait un micro-office qu'on célébrait quasiment en catimini à 17h le samedi saint, ça durait une demi-heure et c'était fini. C'est le concile, enfin c'est même un peu avant Vatican II, c'est le pape Pie XII et Vatican II a amplifié, qui a restauré la vigile pascale que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire l'office de tous les offices. Qui est en fait un retour à la tradition. C'est ça que les traditionnalistes n'ont pas compris qu'il y avait un retour à la tradition. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. La restauration de la vigile, la grande vigile pascale, c'est une restauration de la tradition antique. Hein. C'était aller chercher les sources antiques de la tradition. Donc, la Bible, grand renouveau. La liturgie, grand renouveau. Le dialogue interreligieux et œcuménique, grand renouveau, pour ne pas dire même création, j'allais dire ex nihilo. Et j'aurais pu également nommer la question de la liberté religieuse. La liberté religieuse, le fait de croire librement en Dieu, toute la réflexion sur la liberté religieuse est une nouveauté de Vatican II. Même chose, Mgr Lefebvre a rejeté cette nouveauté. Donc, la théologie, on pourrait dire catholique à Vatican II, elle est en chantier, et ce chantier est déjà fier de nouveaux monuments soit qui n'existaient pas auparavant, soit qui ont été vraiment toilettés, dans le sens d'ailleurs d'un retour à la tradition. Hein. Le renouveau de Vatican II, c'est beaucoup un retour à la tradition, à l'antique de la tradition. Bon, c'est tiré du neuf de l'ancien. Et la morale, ben c'est pas terrible. C'est pas terrible. C'est-à-dire, si vous regardez dans Vatican II, si vous faites l'effort, parce qu'il faut quand même, il faut quand même le vouloir, hein, de prendre le texte du Concile Vatican II, je suis sûr que vous avez ça dans votre bibliothèque, hein. Les gros volumes, n'est-ce pas, du Concile Vatican II, hein, qui font plus de 600 pages, qu'on feuillette sur la plage le 15 août, entre l'office de la Vierge Marie et on lit le texte de Vatican II. C'est extrêmement long, ça peut être fastidieux, il ne faut pas se le cacher. Alors, tous les textes de Vatican II, vous avez des textes explicitement moraux. Donc, ça existe. Mais comment se présente-t-il? Alors, moi, je trouve qu'il se présente en deux, il y a deux aspects. Il y a les textes qui ne changent rien, qui n'apportent rien de particulier à la théologie morale. Ce sont en général les textes qui concernent la morale familiale, la bioéthique. Par exemple, il y a un texte de Vatican II sur l'avortement, il y a un texte de Vatican II sur la morale, Jean-Paul II parlera de la morale de la vie, par exemple. Bon, ben ça, c'est Vatican II. Donc, sur la morale familiale et sexuelle, Vatican II n'apporte rien. Vatican II reprend et prolonge la tradition, et c'est tout. En revanche, vous avez des textes dont on dit maintenant qu'ils ont beaucoup vieilli. Alors, j'en suis pas si sûr que ça, mais il y a des textes de morale économique et sociale, et par exemple, des textes sur guerre et paix. Alors ça nous intéresse beaucoup en 2025 parce que la guerre revient. Et donc, vous pouvez faire l'effort d'aller regarder les textes de Vatican II sur la guerre. En particulier, même pendant le Concile, le pape Jean XXIII a publié une encyclique en 1963 qui s'appelle Pacem in Terris, paix sur terre. Pourquoi 63? Parce qu'on sortait de l'épisode de 62, qui était l'épisode de la baie des cochons, vous savez, c'était pas Poutine, c'était Khrouchtchev, hein, et c'était la menace des Pershing. La planète a vécu pendant 10-15 jours sur la menace atomique des Pershing. Maintenant, ça paraît un peu ridicule parce que ça fait 3 ans que Poutine nous parle de bombes atomiques, hein, mais à l'époque, l'épisode de la baie des cochons, hein, avec Kennedy d'un côté et Khrouchtchev de l'autre, ça a beaucoup chauffé, hein. Et cela a, pardon, j'ai un téléphone que je coupe, voilà. Cela a conduit le Vatican II à à des textes de morale de la paix, si vous voulez, hein, de morale de la paix, qu'on retrouve tout à fait aujourd'hui en 2025 sous la plume du pape François. Hein? Le pape François est totalement fidèle à Vatican II sur la volonté, alors je ne sais pas comment la qualifier, pacifique ou pacifiste, si vous voulez, à mon avis quand même plus pacifiste de Vatican II. Il la reprend telle quelle. Hein. Il l'a repris pour les chrétiens du Moyen-Orient et il la reprend dans la guerre actuellement entre l'Ukraine et la Russie. Bon, c'est comme ça. Mais alors, hormis ces textes-là, donc des textes de morale sociale ou de morale économique, sur la morale familiale et sexuelle, y a rien de nouveau, si vous voulez. Voilà. Pourquoi? Parce que le Concile Vatican II, ça c'est mon hypothèse, mais je l'ai confronté déjà avec des confrères qui ont l'air à peu près d'accord. Le Concile Vatican II avait déjà été très éprouvant. Les pères conciliaires qui ont bossé en 62, en 63, en 64, en 65, 4 ans déjà. 4 ans avec des conflits internes importants, un schisme, celui de Monseigneur Lefebvre, des désaccords profonds sur, je ne sais pas si vous avez eu le cours d'ecclésiologie, mais enfin, le schéma 13, voilà, du texte sur l'Église. Enfin, il y a eu vraiment des guerres intestines, si vous voulez, entre pères conciliaires, très puissantes, hein, évidemment sur la liturgie, sur la liberté religieuse. Tout ça n'allait pas du tout de soi. Hein. Beaucoup ont trouvé que le concile allait trop vite, que ça allait trop loin. Eh bien, ça allait tellement trop vite et trop loin que Paul VI a terminé le concile avant que les pères conciliaires n'abordent, et peut-être pour que les pères conciliaires n'abordent pas les questions de morale, au moins aussi difficiles que les autres. Donc, hormis des textes de morale économique et sociale qui vous parle des systèmes économiques en place, qui vous parle de la guerre et la paix, etc. Sur les questions de morale, par exemple, aujourd'hui, on dit depuis longtemps, hein, qu'il y a un gouffre entre l'enseignement moral de l'Église sur ces questions et puis nos contemporains. Ce gouffre n'a pas du tout été comblé Vatican II n'a absolument pas cherché à combler ce gouffre. Vatican II a répété la doctrine telle qu'elle était. Parce que Paul VI a terminé, il a voulu clore le concile avant, considérant probablement que déjà les pères conciliaires s'étaient suffisamment engueulés, hein, pardonnez-moi l'expression, pour ne pas en plus aborder les questions de morale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le renouveau, parce qu'il y a effectivement un renouveau de la théologie morale, mais le renouveau de la théologie morale catholique est venu après Vatican II. C'est-à-dire dans les années 60, 70 et encore 80. Après. C'est-à-dire l'impulsion de Vatican II a permis à des théologiens moralistes de prolonger finalement dans leur recherche le souhait, si vous voulez, du Concile de renouveler la théologie. Donc le renouveau de la théologie morale, à mes yeux, c'est pas d'abord le Concile, c'est après le Concile. Alors que, pour la Bible, c'est le Concile. Ça a même démarré bien avant. Pour la liturgie, c'est le Concile. Pour toutes les formes de dialogue, c'est le Concile. Pour la morale, ce n'est pas si évident. Hein. C'est plutôt après. C'est-à-dire, bah, je ne donnerai qu'un exemple. On s'est dit le Concile de Vatican II, c'est le Concile de l'ouverture au monde. C'est le concile de la mise à jour, formidable espoir, très grande espérance. Ah oui. Et que fait Paul VI en 68? Mesdames, en 1968, publication de l'encyclique Humanae Vitae sur l'interdiction de la contraception chimique pour les femmes. Plus personne ne comprend rien. Vous voyez, le malentendu porte sur la morale et ce malentendu est complet. C'est-à-dire, Vatican II a renouvelé la Bible, a renouvelé la liturgie, a ouvert, on discute avec nos frères protestants, avec les musulmans, avec les bouddhistes, avec tout le monde. On s'ouvre sur l'Église, sur le monde contemporain. C'est comme ça, hein, qu'était présenté Vatican II, avec une espérance incroyable. 68, c'est-à-dire 3 ans après la fermeture du Concile par Paul VI, Paul VI publie une encyclique donc de morale familiale qui interdit la contraception chimique pour les femmes. Si vous vous souvenez de ces années-là, énorme malaise des femmes catholiques dans le monde. C'est pas en France ou en Italie, dans le monde. Énorme malaise des épiscopats. Vous trouverez dans les bibliothèques ou bien même sur Internet, si vous faites une recherche, hein, sur Humanae Vitae et sur ce qu'on appelle la réception d'Humanae Vitae, vous verrez la réaction, je suis sûr que vous trouverez en googlisant, la réaction de l'épiscopat français qui dit son malaise. En fait, tout le monde s'attendait, et les évêques en particulier, tout le monde s'attendait dans la foulée de Vatican II que Paul VI accepte la contraception. Eh ben non, il la refuse. Autrement dit, c'est sur la morale que se referme l'espoir de Vatican II. Et en fait, ce n'est pas le magistère du pape, ni même celui des évêques, qui va permettre le renouveau de la morale, c'est le travail des théologiens et des théologiennes, puisque maintenant il y a des théologiennes. Et un travail de terrain que je décrirai après la pause, puisqu'il est 21 h. Donc je vous propose, mais je vois qu'à peu près tout le monde, oui c'est ça, vous gardez bien vos micros coupés, surtout si vous avez à bavarder entre vous. Et puis, je vous propose qu'on se retrouve à 21 h 10, si ça vous va. D'accord? Alors, à tout à l'heure, hein. Vous pouvez même couper les écrans et tout, et faire du sous-marin. À tout à l'heure. Bon, mesdames et messieurs, nous reprenons tranquillement. Notre parcours. Voilà. Bon, j'ai l'impression que tout le monde est là. Ah, il y a quelqu'un que je ne connais pas, Sophie, qui n'était pas là, je pense, tout à l'heure.
Qui était là, mais avec des problèmes de
Connais.
connexion.
Ah,
Alors.
là, ça va mieux?
Oui.
Ça a l'air. Bon. Alors, je regarde. Je pense que oui. Ouais, c'est bon. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ce que j'ai raconté tout à l'heure? N'hésitez pas, c'est le moment. Oui.
Moi, je reste un peu sur ma faim parce que vous avez parlé de cette encyclique de 1968,
Oui.
Humanité, et ensuite Jean-Paul II s'est beaucoup exprimé sur ces questions, de morale familiale, sexuelle, et a écrit. Et donc, c'est postérieur aux années 70-80, puisque c'était.
Ah bah oui, c'est après,
Voilà.
par définition.
Et donc, je me dis que ça n'a pas beaucoup. Enfin, ça n'a pas changé en réalité sur le discours de
Alors,
l'Église.
oui, il y a après Vatican II et après Humanae Vitae, il y a de nombreuses encycliques des papes. Enfin, de nombreuses, il n'y en a pas non plus des dizaines, mais il y a quelques grandes encycliques des papes sur la morale. L'encyclique la plus connue et la plus importante, alors, bon, si on est sur l'enseignement des papes, il y a chez Paul VI d'abord une encyclique qui s'appelle, qui doit dater de 64 dans ma mémoire, 1964, vous voyez comme quoi ça reste, c'est encore le concile, qui s'appelle Populorum
Progressio.
Progressio. Alors, Populorum Progressio, c'est une encyclique sur le développement des peuples. Donc, c'est une encyclique de morale, on pourrait presque dire de morale internationale, hein. De morale sociale et économique internationale, hein, qui se situait vraiment dans. On est juste avant, on est avant Humanae Vitae. Donc nous étions encore dans le souffle, puisque les gens parlaient de ça, hein, l'espérance de Vatican II, le souffle de Vatican II. Et vous voyez même le titre de l'encyclique, Populorum Progressio, du progrès des peuples. Vous voyez? Le titre même de l'encyclique était très suggestif. Mais ça, c'est 64. 68, Humanae Puis, les grandes encycliques qui ont caractérisé ensuite l'enseignement des papes, alors, sous Jean-Paul II, c'est essentiellement la splendeur de la vérité, donc en latin, Veritatis Splendor. Cette encyclique était une encyclique destinée à évaluer les théories éthiques contemporaines. C'est une encyclique très difficile, hein, incontestablement, alors qu'on lit facilement Populorum Progressio, on lit facilement beaucoup d'encycliques quand même. Hein, c'est pas... Mais alors l'encyclique Veritatis Splendor, elle est particulièrement difficile parce qu'elle présente et elle évalue les théories éthiques en cours, c'est-à-dire le conséquentialisme, le proportionnalisme, enfin tous les ismes, n'est-ce pas? le capital, enfin, l'utilitarisme, donc toutes les grandes théories, on va dire, du capitalisme libéral en cours à l'époque. Et elle les condamne, en gros. Alors, c'était pas. Bon, Jean-Paul II avait. C'est quand même. C'est un pape qui ne prononce. Depuis Vatican II, on ne prononce plus, si vous voulez, de grandes condamnations solennelles, hein, de l'Église. Mais enfin, vous comprenez très rapidement, en lisant La splendeur de la vérité, que. Donc là, on est au début des années 90. Hein, on comprend tout à fait que Jean-Paul II s'oppose à toutes ces théories éthiques contemporaines qui sont celles quand même que nous pratiquons tous les jours, c'est-à-dire c'est le capitalisme libéral dans lequel nous baignons tous les jours. Ensuite, il y a une autre encyclique de Jean-Paul II qui s'appelle La foi et la raison, Fides et Ratio. Mais alors cette encyclique, c'est le pendant de l'encyclique La splendeur de la vérité, mais cette fois-ci pour les philosophes. C'est-à-dire, La splendeur de la vérité s'adresse aux théologiens moralistes, Fides et Ratio s'adresse aux philosophes moralistes. C'est pas non plus d'encyclique particulièrement simple. Vous savez comme moi que la morale est une partie de la philosophie. Donc c'est la raison pour laquelle, après avoir écrit aux théologiens moralistes, il écrit aux philosophes moralistes. Il y a une encyclique, une grande encyclique sociale de Jean-Paul II, qui s'appelle en français La sollicitude pour les choses sociales. Bon, le latin, c'est Sollicitudo rei socialis. Bon, ok. Alors là, si je caricature, mais je vraiment une caricature, hein, c'est l'encyclique du nini. Vous savez, c'est comme en politique, c'est-à-dire Jean-Paul II n'est ni pour le capitalisme, ni pour le marxisme, et il expose pourquoi. Et il expose pourquoi. L'Église ne peut adhérer à aucun modèle économique et social, et pourquoi, et montre, si vous voulez, Jean-Paul II faisait des encycliques souvent en ombre, c'était les ombres et les lumières. Hein. Voilà, donc après avoir monté les lumières, il monte les ombres, et c'est une encyclique, c'est qu'à de le dire en demi-teinte sur les choses sociales. Bon, c'est Sollicitudo socialis, mais ça, je pense que mes confrères vous le diront après, donc j'insiste pas trop sur là-dessus. Hein. Benoît XVI a écrit sur la morale, mais de manière très originale. Vous avez l'encyclique qui s'appelle Spe Salvi. Enfin, vous avez deux grandes encycliques qui touche un peu à la morale, mais ce n'est pas très spécifique. C'est Deus est Caritas, Dieu est charité, et puis Spe Salvi sur l'espérance. Donc, dans ces deux encycliques, vous trouvez des passages moraux, même si, vous voyez, l'encyclique sur l'amour, vous n'allez pas réduire l'amour à la morale, mais vous allez quand même en parler un peu. L'espérance, idem, vous allez en parler un peu. Donc, il y a des considérations morales dans Spe Salvi et dans Deus est Caritas, mais ce n'est pas des encycliques morales au sens destiné à la morale. C'est vraiment Jean-Paul II qui était le pape, probablement, on peut dire, le plus moraliste. Et François, encore plus original, puisque l'enseignement moral de François porte essentiellement sur l'écologie, avec l'encyclique qui restera probablement la grande œuvre de son pontificat, qui était Laudato Si. Mais votre question, Béatrice, est très intéressante parce que elle me permet de préciser, et je le précise en citant un ancien professeur jésuite du Centre Sèvres qui est mort il y a maintenant, je sais pas, il y a bien 10 ans, qui s'appelait le père Jean-Yves Calvez. Et le père Jean-Yves Calvez disait à ses étudiants, la morale catholique, elle est à deux vitesses. Il y a une vitesse rapide et une vitesse lente. La vitesse rapide, c'est tout ce qui touche à la morale économique, sociale et maintenant à l'écologie. Regardez en dehors de l'Église, en dehors, même chez les non-croyants, vous trouvez beaucoup de gens, beaucoup d'experts, par exemple, qui vont vous dire, on est très intéressé par la pertinence des réflexions de l'Église et du magistère de l'Église sur les systèmes économiques, la vie sociale, et maintenant très intéressé sur Laudato si, il y a eu un impact considérable, bien au-delà de l'Église. Et je parle de François, mais les premiers textes sur l'écologie, ça ne s'appelait pas l'écologie, dans le magistère, datent de Paul VI. Alors, on vient de loin. On parlait à l'époque du respect de la création ou de la sauvegarde de la création. Puis, le mot environnement et le mot écologie se sont imposés. Et vous savez comme moi que François a même développé ce qu'il appelle l'écologie intégrale. Hein, c'est le cœur de l'encyclique Laudato si sur c'est l'écologie intégrale. Alors là, beaucoup d'experts vont vous dire, formidable, l'Église, les considérations économiques, sociales, l'écologie, l'Église est pionnière. Ça, c'est la vitesse rapide. La vitesse lente, c'est ce qui concerne la morale familiale et sexuelle. Où là, en gros, le magistère ne. Alors, quand je dis que le magistère n'avance pas, le but du magistère, ce n'est pas d'avancer, hein, soyons clairs. Le but du magistère, c'est de surveiller, en gros, la conformité de la doctrine. Mais quand même, si vous regardez, par exemple, les questions de fin de vie, sur les questions de fin de vie, le magistère de l'Église catholique a dû évoluer, notamment, je donne l'exemple que je redonnerai peut-être avec vous à la fin du parcours, sur la définition de la mort. Dans les années, c'est-à-dire que dans les années 2000, au début des années 2000, 2000-2005, hein, il y a eu un grand congrès de médecins à Rome autour de la définition de la mort. Et ce congrès de médecins a fait évoluer le magistère moral de l'Église sur la définition de la mort naturelle. C'est-à-dire que ce qui définit la mort, ça n'est plus l'arrêt du cœur, c'est pour le faire vite, ça n'est plus l'arrêt du cœur, c'est l'arrêt du cerveau. Ce qui a été une véritable, alors est-ce qu'il faut dire
Évolution.
révolution, une avancée très importante, parce que l'Église a fait bouger, comme on dit maintenant, il y a eu un bouger, mais c'est vrai, il y a eu un bouger du magistère de l'Église sur la fin de vie. En tirant les conséquences du fait que la mort naturelle, ce n'est pas seulement l'arrêt cardiaque, c'est l'arrêt du cerveau. Hein? Et ça, ça s'est fait dans les années 2000-2005, avec une grande controverse à Rome, qui a opposé des évêques, des cardinaux, des théologiens. Hein? Et finalement, l'Église, le magistère de l'Église, s'est rangé à l'avis des médecins. Comme d'ailleurs, il s'était rangé à l'avis des médecins dans les années 50, 53, 55 pour être précis, où il y a eu un grand congrès, même chose à Rome, convoqué par le pape, sur l'usage des antidouleurs en médecine. Et je crois qu'il y a une pédiatre parmi nous, l'usage des antidouleurs en médecine et la question de l'accouchement dans la douleur. C'est en 53 et en 55, à l'issue de ce congrès de neurologues et je pense, de pédiatres d'ailleurs aussi, n'est-ce pas, que l'Église et le pape ont accepté l'usage des antidouleurs pour éviter la souffrance. Vous voyez, donc ça a fait bouger les questions de début de vie et de fin de vie. Mais vous voyez, ce sont des évolutions en morale beaucoup plus lentes et parcimonieuses que les évolutions beaucoup plus rapides. Vous voyez, sur l'écologie, tout le monde veut dire, l'encyclique de Laudato Si, le truc d'écologie intégrale, c'est assez génial quand même. Hein. Cette proposition globale d'écologie, la spiritualité écologique, il fallait quand même le faire. Hein. Mais voyez, vous avez je trouve que c'est assez pertinent de se dire qu'il y a deux vitesses de la morale et que dans le magistère, du coup, ça ne se traduit pas de la même manière. Hein, pour répondre de manière. Du coup, j'ai répondu de manière un peu longue à votre question, mais qui me paraissait très bonne, parce que. Et pour la compléter, pour compléter ma réponse, comment vous dire? Comme le magistère, sur les questions de morale, début, fin de vie, morale familiale, etc., évolue de manière très lente, les théologiens, eux, ont évolué de manière plus rapide. C'est là où je voulais en venir, mais il y a peut-être une autre question avant que je continue mon exposé. Donc n'hésitez
Donc
pas.
moi, c'est
Oui.
Bénédicte,
Oui.
je reprendrai la question, c'est-à-dire qu'effectivement, bon, ces questions-là ont quand même un peu évolué. Et, effectivement, on oublie que l'Église s'opposait à la définition de la mort,
Oui.
et aux antidouleurs. Mais sur la morale sexuelle, elle est restée au point mort, ou quasiment au point mort. Et le résultat des courses, c'est quand même que... Du coup, elle n'est plus écoutée.
Oui, alors, les progrès à la politique des tout petits pas, effectivement, a éloigné, semble avoir éloigné ou a éloigné beaucoup de gens, y compris des catholiques, de l'Église. Ça, c'est incontestable. Vous savez que dans de nombreux pays d'Europe, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'un théologien, un ecclésiologue du Centre Sèvres, qui était l'expert au synode du pape François, appelle le schisme silencieux. Le schisme silencieux, c'est les gens qui quittent l'Église, non pas en claquant la porte, ça c'était plutôt aux Manévitées, hein, dans les 68, mais c'est les gens qui quittent l'Église parce que ce n'est pas qu'on claque la porte, c'est qu'elle est plus crédible. Et que si vous ajoutez la crise des abus qu'on a connue et qui n'est pas terminée,
Oui.
eh
C'est
bien,
ça.
le schisme plus ou moins silencieux, si vous voulez, continue. Hein? Donc ça, c'est. Alors, il est exact de dire, c'est factuel, c'est objectif, ça n'est pas une manière de le juger, mais c'est le domaine de la morale sexuelle qui a provoqué le plus de malentendus et d'éloignement de la part de l'Église. Ça, c'est absolument évident. Alors, une avancée quand même, qui n'est pas une petite avancée, mais qui lui a été déjà énormément reprochée, hein, c'est dans le texte du pape François qui conclut le synode sur la famille, qui s'appelle Amoris Laetitia. Donc, le texte Amoris Laetitia comporte, dans une note de bas de page, figurez-vous, il faut vraiment aller voir la note, je ne sais plus si c'est 800 et des poussières, hein, comporte la possibilité de recevoir à la table eucharistique des divorcés remariés. Alors là, ça a été un changement significatif, c'est-à-dire que jusqu'à présent, ça veut dire pendant 2000 ans, les divorcés mariés n'ont pas accès au sacrement. Bon, et il se trouve que le pape François a ouvert la possibilité pour les divorcés mariés, dans certains cas très précis, définis par l'exhortation, d'accéder au sacrement de l'Eucharistie, c'est-à-dire moyennant un chemin de conversion, un accompagnement spécifique et finalement au cas par cas. Ça, c'est une avancée importante. C'est la seule, hein. Or, elle a fait couler beaucoup d'encre. Là encore, les pères au synode se sont vraiment ont affiché des désaccords massifs sur la question. Et finalement, le pape a tranché, mais vous voyez, il n'a pas tranché dans le corps du texte. Il faut aller chercher une note de bas de page. Alors tout le monde maintenant, moi je vous invite à voir la note de bas de page, parce que c'est possible, mais il faut la trouver, la note. Et personne n'en parle plus beaucoup d'ailleurs de la note depuis que le texte est sorti. Hein. Oui, enfin, on l'applique, etc. Mais si vous entendez.
Applique.
On l'applique, oui, on l'applique. Pas partout, je peux vous dire, hein, mais on l'applique. Hein, mais il y a beaucoup de, par exemple, il y a beaucoup d'évêques américains qui ont refusé ça. Hein. Donc vous avez des épiscopats ou une partie des épiscopats de la planète qui ont refusé ça. Donc c'est voilà. Puis d'autres qui l'ont appliqué. Dans le diocèse de Paris, on a posé la question à Monseigneur Ulrich quand il est arrivé. Est-ce que vous appliquerez à Maurice Laetitia? Déjà, on lui a posé la question, ça prouve que ce n'était pas évident. Hein, et il a répondu oui. Bon, etc. Voilà. Mais c'est vrai que, incontestablement, le domaine de la morale familiale et sexuelle est un domaine qui est quasiment bloqué. Voilà. Alors, on peut, c'est très compliqué à le faire, on n'a pas le temps ici, mais il y a des raisons, je pense, pour une part objective, mêlées à du subjectif, mais il y a des raisons pour ça. Qui tiennent à beaucoup de. Voilà, il y a beaucoup de raisons, on n'a pas le temps de les analyser, mais c'est incontestablement le. Alors que la morale économique, la morale sociale, l'écologie, si vous voulez, ça galope. Hein, voilà. Donc on a vraiment affaire à deux morales avec deux vitesses. Enfin, c'est la même morale, mais à deux vitesses différentes. Ça, c'est incontestable. Hein. Alors, je reprends le fil de mon exposé. Pour la raison que la question de Béatrice m'a permis de préciser, et la vôtre, le Concile de Vatican II n'a pas permis, sur le terrain moral, enfin sur le terrain de la morale familiale, de grandes évolutions. Puis vous voyez, alors que les théologiens et les évêques s'attendaient à ce que l'effort du Concile soit poursuivi par Paul VI, Paul VI a stoppé. Et puis Jean-Paul II n'a pas changé du tout de ligne, Benoît XVI n'a pas changé, François. Je pense qu'il est honnête de dire que François a essayé, et après qu'il a, c'est un demi-échec ou un demi-succès, ça dépend ce que, je ne sais pas ce qu'en diront les historiens, mais et puis je ne suis pas là pour ni pour écrire l'histoire, ni pour juger, mais c'est entre le demi-échec et le demi-succès, hein, sur la morale. Bon, sur cet aspect-là de la morale. Alors, qui, au fond, a permis le renouveau de la théologie morale, si ça n'a pas été fait par les encycliques? Eh bien, c'est les théologiens et les théologiennes, c'est-à-dire beaucoup les chercheurs et les profs. Je vais donner un nom que vous connaissez sûrement. On serait en Allemagne, je donnerais un autre nom. On serait en Belgique, je donnerais un autre nom. Je vais prendre un théologien français parce qu'on est en France, voilà, et que probablement vous le connaissez. Qui est Xavier Thévenot, par exemple. Hein. Donc, Xavier Thévenot, je pense que l'une ou l'autre, ou l'un ou l'autre d'entre vous ont dû en lire, ou tout le monde l'a lu, je ne sais pas où vous en êtes, mais bon, Xavier Thévenot, c'est peut-être le théologien moraliste français qui, dans les années 70, 80 et encore 90, hein, alors c'est beaucoup 80-90 quand même, hein, a permis un de ceux qui ont permis le renouveau de la théologie catholique après Vatican II. Donc ce sont les théologiens et les théologiennes qui ont fait le travail, si vous voulez, puisque le Concile ne l'a pas fait. Et que Paul VI a clos le Concile pour qu'il ne se fasse pas, probablement. Alors, comment les théologiens y sont arrivés? Alors, ils sont arrivés, vous savez, les théologiens, ils font ce qu'ils peuvent, hein, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait de la théologie, quand on est catholique, la théologie catholique, elle se fait toujours en communion avec Rome. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, vos recherches en théologie sont toujours soumises au discernement du magistère. Sinon, vous changez d'église, en gros, hein. C'est quand même le principe, hein. Mais. Moyennant quoi, on a réussi à, plus ou moins, à provoquer un véritable renouveau qui n'a jamais, enfin, qui n'a pas toujours facilement été acceptée par le magistère, hein, il faut le dire. Hein. Mais quand même, je m'explique. Avant Vatican II, la théologie morale était très centrée sur l'idée de nature, ce qu'on peut appeler aussi la morale naturelle ou la loi naturelle. Donc ça, ce sont de grandes notions. C'est d'ailleurs le propre de la théologie morale catholique, c'est qu'elle est vraiment fondée sur, il y a un socle, une base très forte autour de la morale naturelle, ou de la loi naturelle. Alors, qu'est-ce que la nature dans cette optique-là, dans l'optique catholique? La nature, c'est ce qui ne change pas. La nature, ce sont les invariants de la condition humaine. Je vais m'expliquer davantage. Il est naturel d'être un homme. Il est naturel d'être une femme. Il est naturel de faire des enfants pour un homme et pour une femme dans le cadre du mariage. Voilà, ce sont ces items-là, si vous voulez. Si on prend le Décalogue, hein, les 10 commandements, il est naturel de ne pas mentir. Il est naturel d'honorer son père et sa mère. Il est naturel de ne pas tuer son prochain. Voyez, vous pouvez reformuler tout le Décalogue avec l'idée de nature. Il est naturel de ne pas convoiter la femme de son voisin. Il est naturel de ne pas commettre d'actes impurs, etc., etc., etc. Donc, avant Vatican II, le socle, toujours après Vatican II, hein, mais enfin, le socle, la base, vraiment sur lequel se construit l'édifice, c'est quand même un édifice de morale naturelle, avec cette conception-là de la nature, à savoir une conception fixe, pour ne pas dire fixiste. Ça ne change, vous voyez, la loi naturelle, elle est exprimée. Quand on dit qu'est-ce que c'est que la loi naturelle? Bah, la loi naturelle, c'est ce qui ne change jamais, quelle que soit l'histoire, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les époques, quels que soient les buts de notre action, ça ne change pas. C'est un grand principe organisateur de la morale catholique qui n'existe pas comme ça chez les protestants. Alors, ils ne le formulent pas comme ça. Bon. Et qui n'existe pas comme ça non plus, pas tout à fait chez les orthodoxes. Donc ça, c'est très catholique, ça, l'idée de la loi naturelle. Le décalogue, c'est une bonne définition, si vous voulez, de la loi naturelle. Alors, ça a un inconvénient, c'est que la nature, c'est pas forcément ce qui est fixe. Chez Aristote, il y a au moins une demi-douzaine de définitions de la nature. On s'y perd un peu. Et j'aime bien donner cet exemple-là. Il y a un moment donné, je crois que c'est dans la physique, si je me rappelle bien, Aristote parle parle, figurez-vous, de la nature d'une fleur. Quand vous regardez une fleur, surtout quand elle n'est pas coupée, qu'elle est dans la nature, justement, qu'elle est enracinée dans la terre, hein, une fleur, ça ne bouge pas. C'est fixe. Mais Aristote fait tout autant remarquer qu'il est dans la nature de la fleur de naître, de grandir, de s'épanouir, de décliner et finalement de mourir. Autrement dit, ce que dit Aristote, c'est que même la nature a une histoire. Même la nature change et évolue. Donc, là, il y a une limitation de ce que les catholiques appellent la loi naturelle, au sens où la nature n'est pas ne inclut le changement et ne l'exclut pas, elle inclut le changement. Or, l'idée de loi naturelle, c'est de définir les invariants de la condition humaine. Hein, on est un homme, pardonnez-moi parce que c'est des considérations de couleur qui ne sont peut-être pas très, qui ne sont plus d'actualité, mais on est un homme blanc en Europe, il y a des hommes noirs en Afrique, il y a des hommes, voilà, on est toujours un homme. Comment dire, un enfant est élevé, je vais faire des choses un peu caricaturales pour que vous compreniez, un enfant est élevé par son père et sa mère. C'est naturel, ça. D'ailleurs, moyennant quoi, ça suppose une éducation, donc des changements, une croissance, etc. Mais voilà, l'idée de nature, chez les catholiques, définit ce qui est stable, hein, le roc stable de la personne humaine, ce à quoi on ne touche pas. C'est d'ailleurs ce qui va, et je vais prendre votre question, c'est d'ailleurs ce qui va, c'est le principe même de la bioéthique, hein, des débuts de la vie jusqu'à la fin de la vie, ce qu'on appelle chez les catholiques la morale de la vie. La morale de la vie, elle est, je peux vous dire, puisque je vois que c'est là notre pédiatre qui fait une remarque, je me souviens avoir enseigné ça en première année de médecine, en fac, où les étudiants m'ont ri à la figure quand j'ai parlé de la conception de la vie chez les catholiques. Ça leur paraissait complètement à l'ouest, si vous voulez, hein. Mais la morale naturelle, c'est définit les débuts sacrés de la vie, intouchables. Hein, je force le trait exprès. Jusqu'à la fin naturelle de la vie, intouchable. C'est ce que Jean-Paul II appelait le caractère sacré et naturel de la vie. Voilà ça, c'est c'est l'héritage qui est le nôtre et qui n'a pas bougé en effet depuis Vatican II. Que vouliez-vous dire? Oui.
Je voulais dire que bon, le fait qu'il faille un spermatozoïde et un ovule pour faire un enfant, on est bien d'accord, ça va pas, enfin, ça n'a pas encore changé, en tout cas.
Oui.
Mais par exemple, quand vous prenez l'exemple de l'éducation par les deux parents, c'est
Oui.
très variable
Oui.
d'une culture à une autre.
Oui,
Donc,
je sais bien.
on se centre dans une culture purement européenne
Oui.
qui fait bondir
Oui.
d'autres cultures.
Oui,
Donc,
mais avant de vous dire ça, je suis obligé de construire la fusée étape par étape. Hein. Et le premier étage de la fusée, si vous voulez, c'est ça. Après, il est incontestable que quand on regarde, quand on fait un peu d'histoire, alors voilà, votre question me permet de faire la transition. Les théologiens, après Vatican II, se sont ouverts, pour renouveler la théologie morale, se sont ouverts à l'histoire. Et aux sciences humaines et sociales, en gros. C'est-à-dire qu'ils se sont mis à lire Lévi-Strauss, Foucault, enfin Michel Foucault, les philosophes, Paul Ricoeur, enfin quand Paul Ricoeur ça va, il était chrétien, hein, protestant, bon, voilà. Et tant d'autres, hein, Lacan, donc ils ont fait de la sociologie, de la psychologie, de la psychanalyse, de l'anthropologie, de l'ethnologie, de la linguistique, tout ça. Et ça a donné quoi? Ça a donné, par exemple, la réflexion qui est tout à fait post-conciliaire de Bénédicte, hein, à savoir, si on va regarder les conceptions de la nature ailleurs que chez nous, c'est pas pareil. Si on va regarder les conceptions de la nature ou de la famille, pour prendre l'exemple de la famille, dans l'histoire ou aujourd'hui autour de nous, ce n'est pas pareil. Ce qui, dans la théologie morale, a introduit le principe du relatif. Et le principe du relatif, le magistère n'aime pas, pour faire vite. Hein? C'est ça l'idée. Mais le renouveau de la théologie morale après Vatican II, c'est fait, ça s'est vraiment établi, c'est des rayons entiers de bibliothèques et de cours et de livres, enfin d'études, de thèses. Hein. C'est fait par l'accès. Les théologiens, si vous voulez, ont débloqué la situation en travaillant les sciences humaines et sociales. Peut-être qu'aujourd'hui, d'ailleurs, ils travailleraient les neurosciences. Hein. D'ailleurs, ils le font. Bon. Mais dans les années 60-70, ce qui triomphait, surtout en Europe, c'était les sciences humaines et sociales. Et que disaient les sciences humaines et sociales? Que la personne humaine est un être construit et pas seulement un être donné. Qu'il n'y a pas seulement dans l'existence de la stabilité, mais qu'il y a aussi du mouvement. Et du relatif. Donc ça a été une véritable mutation dans la manière de faire de la théologie. C'est à ce moment-là qu'on s'est mis à forger ce qu'on appelait à l'époque la morale situationniste. Hein? Situationniste, pas pour dire qu'on ne peut pas, on ne peut pas faire de discernement moral en dehors de la situation des cas concrets. Ou bien encore la morale contextuelle, ce qui revient à peu près au même. Alors, ce n'est pas tout à fait les mêmes auteurs, on s'en fiche, mais morale contextuelle. C'est-à-dire, ce n'est plus une morale dont les principes sont élaborés de façon exogène et verticale, c'est une morale d'en bas. Une morale d'en bas qui part des situations et des cas concrets. Voilà, alors ça, c'est une morale marquée par l'histoire, marquée par la condition historique de la personne humaine. Voilà. Alors, c'est comme ça que c'est fait et que continue à se faire, malgré tout, vaille que vaille, le renouvellement de la théologie morale. Mais, pour faire inclusion avec la question de Béatrice, ça n'intéresse pas beaucoup le Vatican. Il faut être tout à fait honnête. Sauf le pape François, qui est effectivement probablement le premier pape à s'intéresser à cela, incontestablement, et on voit que le pape François est intéressé à ce genre de morale, parce que l'exhortation Amoris Laetitia est un bon exemple, hein, une bonne illustration de... la prise en compte des contextes. C'est sûr. C'est sans doute le premier pape à le faire sans en tirer toutes les conséquences. Il ne peut pas en tirer toutes les conséquences. Parce que au dernier synode sur la famille, un synode qui s'est fait sur 2 ans, si vous vous souvenez, hein, eh bien ce synode a bloqué, a coincé sur différents sujets et le pape a renoncé. C'est-à-dire que le pape a retiré de l'ordre du jour des questions qu'il avait voulu y mettre. Mon hypothèse de lecture, d'ailleurs, c'est que le synode sur la famille devait être la réouverture sur le mode synodal du Concile Vatican II pour les questions morales. Hein, c'est là où Paul VI avait fermé Vatican II sur les questions de morale, François voulait rouvrir par un synode les questions de morale. Ça n'a pas fonctionné, à mon sens. Hein. Enfin, ça n'a pas fonctionné, en tout cas, pas autant que... Vous savez, c'était si vous vous rappelez le synode sur la famille, les gens, y compris les médias, alors les médias, ça peut être bien ou moins bien, hein, mais disaient, oui, c'est le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Donc certains trouvaient que c'était trop plein, d'autres trop vide. Bon, demi-échec, demi-succès. Mais clairement, moi, je faisais partie modestement du deuxième cercle des experts. Je peux vous dire que le pape a nettoyé l'ordre du jour qui était prévu au synode. Et l'ordre du jour prévoyait des questions de morale sexuelle. Ah, voilà. Donc il ne l'a pas fait. Alors je ne sais pas si le prochain le fera, mais il ne l'a pas fait. Voilà. Vos questions sont particulièrement intéressantes, vous voyez, parce qu'elles me permettent de préciser. Alors, et peut-être pour conclure ce premier parcours, Il y a, dans le fond, on pourrait le résumer de la manière suivante. Depuis Vatican II, il y a deux grands courants de théologie morale dans l'Église catholique. Deux grands courants de théologie morale qui sont des courants différents, voire divergents. Le premier courant, c'est celui qu'on appelle le courant de morale hétéronome. Hétéronome, alors pour les hellénisants, hein, hétéros, autre, nomos, la loi. Donc l'hétéronomie, ça veut dire en philosophie, c'est lorsque vous, quand vous êtes, comment dirais-je, hétéronome, ça veut dire que vous ne trouvez pas en vous-même la norme de votre action. Vous la trouvez à l'extérieur, hétéros. Ce n'est pas vous, d'abord, qui guidez votre action morale, elle vous est donnée par quelqu'un d'autre. Alors, ça peut être un dieu, une morale, une église, une institution, un parti politique, une idéologie, mais ce n'est pas vous. C'est-à-dire que si, ce n'est pas d'abord vous, c'est-à-dire vous souscrivez, on dirait aujourd'hui, vous consentez à une morale qui est extérieure à vous-même et que vous avez choisi d'adopter. Alors, ce grand courant de théologie morale, on l'appelle le courant de la morale hétéronome. C'est le courant moral de Jean-Paul II et de Benoît XVI. Bon. Et en gros, alors parfois on dit aussi, c'est un peu pompeux de dire ça, hein, c'est le courant de l'école romaine de théologie. Donc c'est le courant de la morale de la vie, voilà. Et pourquoi ils disent hétéronome? Parce que, vous voyez, c'est un courant qui insiste beaucoup sur la notion d'obéissance du catholique, de filiation du catholique à ce qui lui est extérieur, c'est-à-dire l'obéissance filiale au magistère, etc., etc. Hein, c'est ce courant-là, c'est le courant qui a publié par les papes les grands textes moraux. Hein. On parlait de bioéthique, c'est par exemple le texte Donum vitae. Donum vitae, le don de la vie. Interdiction de la fuvette. Alors, vous savez, c'était le débat entre fuvette hétérologue et homologue, etc. Le Vatican a tout refusé. Là encore, les théologiens qui avaient travaillé en amont du texte Donum Vitae, pensait que le Vatican allait pouvoir s'ouvrir dans certaines conditions. Eh bien, pas du tout. Ça a été un rejet complet. Ça, c'est le courant de morale hétéronome. Puis il y a un deuxième courant qui est le courant de morale autonome. Alors, ça, le moral autonome, bon, autonomos, ça veut dire que vous trouvez en vous-même la morale de votre agir. En vous-même d'abord. Ça ne veut pas dire que vous n'acceptez pas un apport extérieur, mais ça veut dire qu'en premier et en dernier recours, c'est vous qui décidez. Ça, c'est plutôt le courant de un grand nombre, je n'ai pas de statistiques, hein, mais un grand nombre de théologiens catholiques, un bon nombre de théologiens catholiques. Donc, je ne veux pas forcer le trait parce que c'est caricatural, mais ça vous permet quand même de camper un décor. Hein. Il y a quand même ces deux grands courants de théologie morale après le Concile. La morale hétéronome, qui est, vous l'avez compris, proche, ce sont les théologiens qui sont proches du magistère, c'est-à-dire les théologiens pour lesquels la morale consiste à commenter le magistère, à illustrer le magistère, à exemplifier. Et puis le courant de la morale autonome, qui est un courant issu du renouveau de la théologie morale par les sciences humaines et sociales dans les années 60, 70, 80 et 90. Et comme vous le comprenez bien, ces deux courants de théologie morale, ce sont des courants qui, en général, d'ailleurs, ne sont pas d'accord. Donc quand on fait un colloque, eh bien, les uns entrent par une porte et les autres sortent par l'autre, hein, en gros. Et si on publie le résultat d'un colloque, hein, on ne publiera pas dans la même revue. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non, oui, non. Ça va?
Il me semble que la morale veut codifier ce que le discernement apporte.
Alors attendez, c'est qui dit ça? Je me
Xavier,
rappelle.
c'est Xavier.
Xavier, alors redites-moi ça, la morale.
La morale veut codifier ce que le discernement apporte.
Oui, ça, vous avez une approche qui est tout à fait ignatienne, qui est l'approche du pape François, et qui est une approche que je fais volontiers mienne, mais qui pourrait avoir tendance, et c'est son défaut, pour certains en tout cas, à subordonner la morale à l'expérience spirituelle personnelle. C'est-à-dire quand vous dites il s'agit de codifier,
Mais c'est pour ça que enfin, je suis d'accord avec vous, mais c'est pour ça que je ne souhaite. Moi, je ne suis pas favorable à la codification, parce que c'est dans une relation intime au Christ qu'on prend une décision. Et
Oui.
la morale, on s'en fout.
Alors là, moi, je n'irai pas jusque-là.
Mais
C'est-à-dire,
bien sûr, bien
on
sûr.
a aussi besoin de code, c'est-à-dire d'ailleurs une des définitions habituelles du mot moral, hein, que ce soit dans
Vous
l'Église
n'avez pas mangé?
ou partout ailleurs. Il faut couper un micro, là, il y a un micro qui fonctionne, il faut le couper, voilà, merci. Une des définitions habituelles de la morale, c'est ce qu'on appelle le code, hein. Michel Foucault définissait la morale par le code. Hein, c'est-à-dire, alors on a tous besoin aussi de code, voyez. Le code de la route, c'est très utile. Par exemple, hein. Le code de déontologie médicale, c'est très utile. Bon, etc. Donc, de temps en temps, on a quand même besoin de codifier pour s'y repérer. Hein. Mais l'idée que la morale soit issue d'un processus qui, à l'origine, est un processus de discernement intérieur et que la morale en découle, oui, fondamentalement, je suis d'accord. Et fondamentalement, c'est un principe catholique. Pourvu que en fait, il s'agit de donner une place juste à ce que vous appelez le code et la codification, c'est-à-dire ce qu'on trouve dans la vie courante, les règles, les règlements, les lois de tout genre, hein, plus ou moins importantes, plus ou moins fondamentales. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est bon pour vous? Eh bien d'accord, ben, écoutez, donc il est 21h59, vous voyez, on tient dans les temps qui nous sont impartis, comme on dit dans les médias. Donc je vous remercie de votre patience.